Salut à tous, salut à toutes. Vous êtes sur RTF 95,4 MHz et vous écoutez Les Barricades Mystérieuses, une émission qui est consacrée à la musique classique et à la littérature. Alors, notre programme de musique classique pour cette émission, nous aurons du Debussy, nous aurons du Schumann, pas mal de Schumann, nous aurons du Bach, et puis je vais essayer de vous faire entendre des choses qui sont un peu moins courantes, voilà. Et puis alors, la littérature, c'est deux livres intéressants. Laura Adler, La voyageuse de nuit, c'est un joli titre. Et Laura Adler est une intellectuelle, une historienne que l'on voit assez souvent dans l'émission « C'est ce soir ». Elle a écrit un livre sur la vieillesse qui est un livre assez remarquable et assez touchant. Et puis alors un livre assez remarquable aussi d'un auteur aussi assez touchant qui arrive à nous émouvoir, c'est Simon Liberati, et c'est un livre qui s'appelle Stanislas. Et Stanislas, bien sûr, comme le célèbre collège Stanislas. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter. Schumann est surtout connu pour sa musique pour piano, ses Lieder, ses symphonies, et il est moins connu pour sa musique pour hautbois, et pourtant il en a écrit pas mal. J'ai trouvé un enregistrement de musiciens, alors c'est pas récent, mais ce sont deux musiciens d'une qualité extraordinaire. C'est Heinz Holliger au hautbois et Alfred Brendel au piano. Alors le hautbois, qui est un instrument très difficile, où il faut beaucoup de pression mais pas beaucoup d'air, ce qui fait que l'instrumentiste s'asphyxie. Et alors le hautbois, il y en a toute une famille. Alors celui qu'on entend d'habitude, c'est le hautbois en ut, et c'est celui qui donne le la à l'orchestre. Vous avez peut-être remarqué avant les concerts, c'est le hautboïste qui joue le la et tout le monde s'aligne dessus, parce que le hautbois ne peut pratiquement pas changer son accord, très très peu. Alors il y a bien sûr le hautbois d'amour qui est en la, il y a le hautbois de chasse qui est, je crois, en fa, en fait, etc. Il y en a toute une série, mais le plus connu, c'est le hautbois traditionnel. Et Heinz Holliger a été un très très grand hautboïste. Et Alfred Brendel, bien sûr, on ne le présente plus, un pianiste extraordinaire, interprète merveilleux, en particulier de Beethoven. Alors, je vous propose d'écouter un adagio et un allegro en la mineur, opus 70, en la bémol majeur, donc opus 70, de Robert Schumann.
Attends,
Voilà, c'était cette fantaisie de Schumann pour hautbois et piano, interprétée par Heinz Holliger au hautbois, bien sûr, et Alfred Brendel au piano. Alors, j'ai trouvé, figurez-vous, un disque qui s'appelle Rare musique de piano, la musique inconnue de Debussy pour le piano. Et donc, on entend alors, des préludes oubliés, ou une petite valse, ou un jour affreux avec le diable dans le beffroi, avec qui accompagnait un texte avec une narration, et même, tenez-vous bien, une nuit dans la maison Usher. Alors, ceux qui se rappellent leur lecture de Edgar Poe se souviennent peut-être de la chute de la maison Usher, qui fait partie des contes épouvantables d'Edgar Poe, où un des personnages est enterré vive. Bon, alors, ce n'est pas ce que je vous ai proposé. Je vous propose d'entendre quelque chose de plus sympa, de plus doux. C'est un extrait des Fêtes Galantes, donc de Debussy, interprété par Nicolas Horvat au piano.
Thank you.
Voilà, eh bien, vous avez entendu un extrait d'une œuvre intitulée « Trois romans », ça date de 1838-1839, de Clara Schumann. Alors, Clara Schumann, très connue, c'était la femme de Robert Schumann. Elle a écrit elle-même, c'était une pianiste virtuose qui était très très appréciée comme professeur de piano. Et c'est elle, il faut bien dire, qui faisait bouillir la marmite parce que Schumann ne gagnait pas grand-chose avec sa musique et il en a gagné encore moins quand il a été interné dans un hôpital psychiatrique où il a passé de nombreuses années de sa vie. Voilà, donc Clara Schumann, grande musicienne aussi, et c'est tiré d'un CD assez sympathique et qui s'appelle donc Clara et Robert Schumann, donc, qui diffuse des œuvres de ces deux musiciens, ou ces musiciens et musiciennes. Alors, premier livre, c'est le livre de Laure Adler. Alors, Laure Adler, on peut la voir dans une émission qui est diffusée sur la 5 un peu tard et qui s'appelle C'est ce soir, où elle fait beaucoup de réflexions d'ordre historique mais aussi philosophique et de théorie politique. C'est une personne tout à fait estimable. Laure Adler a écrit des quantités de livres, elle a écrit des biographies, elle a écrit une biographie elle a écrit sur Hannah Arendt, elle a écrit sur Marguerite Yourcenar, elle a écrit sur Marguerite Duras. Et alors, elle a publié plusieurs livres assez intéressants. Donc, elle a écrit son premier livre, c'était à l'aube du féminisme, sur les premières journalistes. Alors, en particulier, Séverine, qui était une journaliste très connue, etc. Et elle a également été conseillère culturelle à l'Élysée sous François Mitterrand. Voilà, c'est une personne absolument estimable. Elle est plus toute jeune, mais il se trouve que je l'ai un peu connue et elle était superbe. Voilà. Et donc elle écrit ce livre, La Voyageuse de nuit. C'est une suite de textes sur la vieillesse. Alors, ce sont des références à d'autres intellectuels. Alors, par exemple, Edgar Morin qui lui-même a 103 ans ou quelque chose comme ça, est toujours bon pied, bon œil, en tout cas bonne tête. Elle écrit aussi des anecdotes personnelles mais parlantes. Par exemple, des choses comme « Le jour de mes 50 ans, j'ai commencé à vieillir. C'était un sentiment violent. Ce jour-là, j'ai compris le moins. » J'aurai désormais moins de jours à vivre, moins d'énergie, moins de désir, moins de vitalité. Le décompte a commencé, l'horloge du temps interne s'est modifiée. Voilà. Mais malgré tout, elle continue à faire comme si, elle continue à apprécier les bons moments, les choses agréables, un joli coucher de soleil, un café et une cigarette en terrasse à Paris, etc. Alors, il y a toute une série de textes, et c'est très très difficile de le résumer. Évidemment, elle aborde aussi toute une série de problèmes sociologiques posés par la vieillesse. Alors, par exemple, le fait que désormais, on hérite beaucoup plus tard qu'avant. On hérite à un âge où autrefois, c'était nos héritiers qui héritaient. Enfin, je m'exprime mal, mais je veux dire, on a l'âge, par exemple, à 75, 80 ans, vous héritez. Mais en fait, c'était l'âge où mouraient les gens dont on héritait autrefois. Voilà. Donc, c'est un problème. C'est un problème aussi. Que faire des vieux ? Alors, il y a des EHPAD, mais il n'y a pas que des EHPAD. Heureusement, et alors, quelquefois, c'est un scandale. Il y a eu des livres là-dessus. Enfin, voilà. Donc, toute une série de textes qui se lisent avec intérêt, en se disant que, finalement, d'abord, on va tous y passer. On va tous y passer, soit parce qu'on va devenir vieux, ou alors l'autre volet de l'alternative, c'est on sera mort. Voilà, c'est vieux ou mort. Donc il n'y a pas de troisième solution. Autant s'en persuader tout de suite. Et puis, elle nous raconte deux petites anecdotes. La première, elle prend le bus à Paris et elle rentre dans le bus qui est bondé et il y a une jeune fille qui se lève et qui lui propose sa place, ce qui est gentil. Mais alors elle, ça lui fout un coup au moral. Elle se dit, ça y est, je suis une vieille, on se lève pour me laisser la place. Et alors, au rebours, et à peu près à la même époque, Laura Adler nous raconte qu'elle longe, elle marche dans une rue dans Paris et il y a des travaux. Et elle passe, elle dit, les ouvriers me sifflent joyeusement quand je passe. Elle dit, ah, ça a illuminé ma journée. Voilà. Donc, quelquefois, elle n'a pas considéré ça comme une agression sexiste et misogyne. Elle a trouvé ça comme la preuve qu'on la regardait encore quand elle passait dans la rue. Voilà. C'est un livre très intéressant, très sympathique et qui nous convainc de la chose suivante. Comment gérer la vieillesse ? Alors, il y a deux choses. Il faut combattre en soi-même deux personnages, car nous nous battons contre nous-mêmes, nous sommes composés de plusieurs personnages. Il faut combattre deux personnages, le mélancolique et le juge. Alors, le mélancolique, c'est la personne en nous qui nous dit « Ah oui, mais dans 2 ans, dans 5 ans, comment je serai ? Je vais tomber malade, je vais... etc. » Non, dites-lui de se taire et dites-lui... on n'en a rien à foutre de ce que tu vas me dire, de ce qui arrivera dans 2 ans ou dans 5 ans. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine. Voilà, il faut faire taire le mélancolique. Et puis, il faut faire taire le juge aussi. Le juge, c'est celui qui nous dit « Ah, mais pauvre idiot, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu aurais dû agir autrement. Tu aurais dû prendre telle autre décision autrefois. » Eh bien non, ça a été pris. Donc, on n'y pense plus. Voilà. Voilà ce qu'on peut apprendre en lisant le livre de Laura Adler, donc La Voyageuse de nuit, et c'est aux éditions Grasset. Thank you. Alors, Simon Liberati est un écrivain français donc, qui a eu le prix Femina en 2011, qui a eu le prix Renaudot en 2022. Et il a écrit plusieurs autres livres, mais un que j'avais chroniqué sur cette antenne, me semble-t-il, et qui s'appelait Eva. Et Simon Liberati a été l'époux de Eva Ionesco. Alors, ça n'a rien à voir avec le dramaturge, mais c'était la fille de Irina Ionesco, à qui elle a servi de modèle pour des photos un peu érotico, limite pédopornographique, enfin bref. Donc c'était un personnage, et il raconte sa liaison et son mariage, je crois, avec Eva Ionesco, et qui se révèle être un personnage absolument ingérable, et c'en est au point que il a été obligé de porter plainte contre elle et que le juge a interdit à elle, Eva Ionesco, d'approcher Simon Liberati à moins de 10 km. Enfin, une histoire pas possible. Bon, alors ce n'est pas de ce livre que je veux vous parler aujourd'hui. C'est d'un livre qui s'appelle Stanislas. Alors ce n'est pas un roman, c'est plutôt un recueil de souvenirs. Et Stanislas, vous le savez peut-être, c'est un lycée privé sous contrat, qui est situé à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est un endroit, avec l'école alsacienne qui était protestante et qui l'est toujours, qui est destiné à éduquer les enfants de la bourgeoisie, en plus, il faut bien dire, de la grande bourgeoisie, donc à Stanislas. Alors, ils ont eu très récemment des ennuis, parce que violence, harcèlement, etc., etc., c'est très à la mode. Mais enfin, je crois que ça se passait pas très, très bien. Et si on écoute, et si on en croit Simon Liberati, qui raconte ses années de d'école primaire et de collège à Stanislas, c'est vraiment une boîte, une assez sale boîte, en fait. Alors, il y a cette phrase en épigraphe, « Français sans peur, chrétien sans reproche ». C'est la devise du collège Stanislas. Et alors, les élèves avaient un blazer bleu, marine, avec un écusson, et dessus, il y avait la phrase que je viens de vous lire. Simon Liberati nous raconte qu'il est entré en 11e, vous savez, pour l'école... Les écoles privées, on disait la 11e, la 10e, etc. Avant la 6e, on ne disait pas le cours élémentaire première année, déjà. Et là, il nous raconte une scolarité qui va en fait le mener jusqu'au baccalauréat, et où il a été horriblement malheureux. Alors, c'est plein de portraits de personnages, souvent des gens connus, des gens issus de la grande bourgeoisie ou de la très grande bourgeoisie, qui mettent leurs enfants dans cette boîte, à Stan, comme ils disent, donc à Stanislas. C'est d'ailleurs là qu'avait mis Madame Oudéas Castéra, l'éphémère ministre des sports du gouvernement, je ne sais plus quoi, peut-être les ministres se succèdent à une telle vitesse qu'on y prend le tournis. Alors, Stanislas, Stan, et donc Simon Liberati. Alors, pourquoi ? Alors, on le soupçonne peut-être d'être un peu juif, ce qui est peut-être le cas, pas le cas, il en parle un peu, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. Et le lycée Stanislas fourmille de ce qu'il appelle les gudards. Les gudards, c'est-à-dire c'est les gens du GUD, le groupe Union Défense, qui fleurissaient aussi autrefois, et je dis bien autrefois, dans la faculté de droit d'Assas. Alors c'est tout le même quartier. Alors évidemment, ces gens-là ne savent pas quoi imaginer pour persécuter le jeune Simon qui va toujours au lycée avec la peur et la boule au ventre. Et alors c'est une occasion pour lui de nous peindre ses parents qui sont des gens très, très étranges aussi. Son père qui a été un surréaliste, qui appartenait au groupe surréaliste avant de s'en faire exclure ou de le quitter, on ne sait pas trop. Sa mère qui... tenez-vous bien, est danseuse aux Folies Bergères. Et oui, ça ne s'invente pas, ces choses-là. Et tous ces gens-là vivent dans le luxueux 6e arrondissement. On est dans les années 70. Et alors finalement, Simon Liberati finira par avoir son bac avec mention passable, à la surprise générale, mais avant, il s'est fait mettre à la porte de Stanislas pour intégrer le cours Marcel Proust, qui était ce qu'on appelait à l'époque une boîte à bachots, c'est-à-dire un endroit où on mettait les mauvais élèves suffisamment riches pour se payer ça, et on leur donnait des leçons particulières. Il nous dit aussi, en passant, que Stanislas a un niveau lamentable et que les élèves qui étaient moyens à Stanislas étaient nuls dans l'enseignement public. Alors l'enseignement public du coin, c'est Louis le Grand et Henri IV et Saint-Louis. Voilà. Alors c'est un livre. Vous savez, les livres de lycéens racontant leur révolte, il y en a beaucoup, à commencer par Jules Vallès, hein, avec ses trois livres sur son enfance. Bon, mais celui-là est assez touchant, assez inédit, et surtout, il démolit bien l'image d'une espèce de bourgeoisie hypocrite qui ne donne pas envie de la fréquenter. Alors voilà, c'est de Simon Liberati, et ça s'appelle Stanislas. Voilà, vous avez reconnu la jolie voix de soprano coloratour de Sabine de Vielle, enregistrée par son mari Raphaël Pichon, enfin son mari, bon, et l'ensemble Pygmalion, donc, qui est l'ensemble dirigé, fondé et dirigé par Raphaël Pichon. Mais c'est ainsi, eh bien, c'est ainsi que se terminent ces barricades mystérieuses. On vous retrouve la semaine prochaine, si vous voulez bien, et on vous souhaite une bonne semaine.